Frères et sœurs, les amis, en accompagnant nos deux catéchumènes, Pascaline sur Venelle et Julien sur Puricard, qui seront tous deux baptisés à Venelle le matin de Pâques, nous avons successivement pris comme parole de Dieu, comme évangile, comme bonne nouvelle, la Samaritaine, l'aveugle-né, et voilà que pour les troisième étape du scrutin de nos catéchumènes, c'est l'évangile de la résurrection de Lazare. J'allais dire, c'est bien à tort qu'on appelle ce passage la résurrection de Lazare. Ce n'est pas véritablement le terme qui convient. Lazare était mort réellement, puisque Jean nous donne des détails très réalistes. Mais cette résurrection est d'abord celle, j'allais dire, d'un ami intime de Jésus. On peut tout à fait supposer qu'il se rendait relativement souvent dans cette famille. Je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Proclamons-nous chaque dimanche dans le credo de l'Église. La mort de Lazare n'a été en définitive qu'une sorte de parenthèse dans sa vie terrestre. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie après le miracle de Jésus. Sans doute, Lazare a repris le courant de sa vie ordinaire, mais nous n'en savons pas plus. On pourrait dire que Lazare a eu une sorte de supplément de vie terrestre. Son corps n'était pas transformé, loin de là. Alors nous pourrions nous poser une première question. Pour finir, à quoi bon cette résurrection de Lazare et ce miracle? Nous avons bien compris depuis quelques dimanches que le Seigneur Jésus-Christ a pris des risques, notamment en accomplissant des miracles le jour du sabbat. Des risques pour lui-même, d'abord et avant tout, parce que il s'est fait pas mal remarquer, on l'a bien compris dans les lectures des dimanches précédents. Mais saint Jean répond à notre question « à quoi bon ?» en nous disant que c'est un signe, cette résurrection de Lazare, très important, car ce signe va manifester que Jésus est bien celui en qui nous avons la vie sans fin et en qui nous pouvons croire, c'est-à-dire sur qui nous pouvons miser notre vie. Puisque c'est lui en personne qui ressuscite Lazare, donc s'il est capable de ressusciter Lazare, c'est que Jésus porte en lui et avec lui la force de à la fois témoigner qu'il a tout pouvoir sur la vie, et de témoigner qu'il porte en lui les arts de la vie éternelle. Du reste, les grands prêtres et les pharisiens ne s'y sont pas véritablement trompés. Ils ont fort bien compris la gravité et l'importance du signe qui vient de s'accomplir. Saint Jean nous dit qu'à partir de ce moment-là, trop de gens et beaucoup de gens se mirent à croire en Jésus au travers de cette résurrection de Lazare. Et donc, à partir de ce moment-là, les grands prêtres et les pharisiens décidèrent non seulement de le persécuter, mais de le faire mourir. Donc on voit bien que c'est un paradoxe, une fois de plus. Vous savez, souvent je vous parle de paradoxe. À la fois, en un certain sens, redonnant la vie à Lazare, une prolongation de vie en le ressuscitant. Donc c'est axé sur la vie éternelle dont Jésus est porteur de par ce miracle. Eh bien, à contrario, il se condamne lui-même à une mort certaine. Donc on peut dire que c'est ce miracle de la résurrection de Lazare qui a signé son arrêt de mort, tout simplement. Il y aura beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur cet évangile, mais une ou deux remarques, si vous le voulez bien, et qui n'est pas sans importance. En définitive, au-delà de la résurrection, c'est-à-dire de l'acte lui-même, de ce miracle, pour Jésus, la véritable chose qui compte, c'est la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, bien évidemment, il faut croire. C'est ce que dit, si nous avons fait attention à la lecture du récit, ce que nous venons d'entendre et que je me permets ici de rappeler. Quand on annonce à Jésus, celui que tu aimes est malade, Jésus va dire à ses disciples, je cite, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » C'est donc un verset, à mon avis, très important, qui nous rappelle que, en fait et en vérité, ce miracle, tout en condamnant la personne du Christ, va servir à la gloire de Dieu. Vous voyez un autre paradoxe, là aussi, très intéressant. Autrement dit, que la révélation du mystère de Dieu, du projet de Dieu, qui veut la vie et la liberté de l'homme, c'est exactement cela qui est sous-jacent et qui est même présent dans ce texte qui nous rapporte la résurrection de Lazare. Et un peu plus loin, Marthe dira à Jésus, en demandant de ressusciter son ami Lazare, son frère, le Christ va répondre, si tu crois, il va répondre à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc une fois de plus, dans le texte, le terme « gloire de Dieu » est répété. Alors ne croyons pas que la gloire de Dieu soit une sorte de récompense au travers de ce miracle. Mais quand nous laissons notre cœur et notre regard, bien sûr, s'obscurcir par un voile que nous pourrions appeler le soupçon ou la méfiance, c'est comme si nous mettions des lunettes noires et que nous ne voyions plus la lumière. La foi, c'est elle qui fait sauter ce bandeau et cette obscurité. Et donc, en faisant sauter ce bandeau et retrouvant la lumière, je pense que quelque part, comme on dit, c'est ça, à la fois rendre gloire à Dieu et la gloire de Dieu. L'autre remarque que je me permettrai de dire, c'est que la foi en la résurrection va franchir par ce miracle, par cet acte, une étape ultime. Ton frère ressuscitera, dira Jésus à Marthe. Et Marthe répond, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Mais Jésus va rectifier, car il ne parle pas au futur, il parle au présent. Moi, je suis la résurrection et la vie. Voyez-vous, une fois de plus, combien il faut faire attention au temps des verbes qui sont employés. D'une part, nous prenons conscience que Marthe a une foi très réelle, chevillée au corps, très spécialement une foi en la résurrection, au dernier jour, comme elle le dit. Mais dans la délicatesse de la pédagogie du Christ, il va légèrement rectifier son acte de foi en employant le temps présent, l'air de dire, comme cela a été dit dimanche dernier, ou il y a deux dimanches, pardon, dans l'évangile de la Samaritaine, celui qui te parle, c'est moi, je le suis, ce Messie, dira le Christ à la Samaritaine. Et là, c'est la même chose. Il va dire, moi, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est très beau, comme verset. Et qu'on voit bien que la résurrection transcende l'acte même de mourir, parce que même s'il meurt, vivra. On a l'impression que la résurrection des corps va se passer en cet instant. Je suis la résurrection et la vie veut tout simplement dire que la mort, au sens de séparation de Dieu, n'existe plus. Elle est vaincue dans la résurrection du Christ. Alors nous voyons là un thème aussi important dont nous avions parlé il y a quelques dimanches, le grand projet de Dieu, qui est d'amener l'humanité à la souveraineté sur la création, telle que nous pouvions l'entendre dans les premiers chapitres de la Genèse. « Dominez la terre et soumettez-la », avait dit Dieu à Adam. En libérant Lazare de ses bandelettes, Jésus montre ici la libération totale. En effet, bien sûr, osons dire que l'humanité est désormais libérée de la mort. Alors que nous allons dans quelques jours vivre la passion du Christ, n'oublions jamais, au-delà des épisodes extrêmement douloureux que sont celui du Vendredi Saint et puis du grand silence du Samedi Saint, osons dire, nous aussi, avec un acte de foi très simple, que l'acte même de la mort du Christ a détruit la mort. Autrement dit, la mort de cet homme, qui est fils de Dieu, détruit à jamais la mort humaine, puisque il porte en lui la résurrection. Et comme il a pris notre nature humaine, il englobe aussi dans sa nature humaine cette résurrection véritable de chacun, chacune d'entre nous, puisque nous avons en commun avec le Christ la nature humaine. Oui, mort, où est ta victoire ? En fait, il n'y a pas de victoire de la mort, il y a la victoire du Christ sur la mort. Amen.